Bienvenue à nous tous, premier dimanche de l'Avent, et pour fêter ça, nous avons aujourd'hui nos deux musiciennes, à l'orgue et au piano, Myriam Saab au piano et Yun Hua Cho à l'orgue. Merci à elles. Bienvenue à nous tous qui portons en nous mille questions, mille doutes, mille espérances. Que ce moment nous permette de poser nos bagages et d'écouter ce que Dieu pourrait nous dire aujourd'hui. En tous les cas, le Seigneur vous donne la grâce et il vous donne la paix. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant. C'est le 31-11, page 318, les trois strophes. 31-11, page 318. Porter devant toi la richesse de nos jours et la fatigue de nos nuits. Dans nos voix, même chantantes, résonnent des joies et des peines mêlées. Reçois, Seigneur, notre louange et reçois-la en vérité. Nous continuons à chanter le 31-17, maintenant page 326, strophe 1, 2 et 3.
Oh,
Seigneur, nous venons, maladroits ou hésitants, avec ce que nous avons de meilleur et aussi de moins glorieux. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons fermé les yeux, tourné le dos, bouché nos oreilles. Toutes les fois où nous avons fui, où nous t'avons fui, sans même en avoir conscience. Aide-nous à nous remettre entre tes mains, à trouver et à retrouver sens et direction de nos vies. Amen. En restant assis, nous prenons le 31-12, page 319, que nous allons égrener, et là nous chantons la strophe numéro 1. 31-12, strophe 1. Entendez ceci, en Christ, vos fautes sont effacées, vos peurs sont désamorcées. Relevez-vous et repartez léger, car son pardon vient pour renouveler. Alors oui, relevons-nous pour chanter la deuxième strophe du 31-12. À bâtir un monde à la hauteur de ce qu'il a rêvé pour nous. Aimer sans mesurer, servir sans calculer. Le Seigneur ne nous demande pas de miracle, mais simplement d'être responsable de sa parole. Et nous prenons la strophe 3.
Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levons la tête, parce que votre rédemption approche.
Il leur dit encore une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Avant d'aborder le vif du sujet, je me suis amusé à penser aux paroissiens des églises conservatrices des États-Unis, et elles sont nombreuses, et c'est d'ailleurs grâce à elles que M. Trump a été élu. Je pense aussi à leurs pasteurs qui sont obligés, à chaque fois qu'ils tombent sur un texte, et il y en a un certain nombre où Jésus demande, comme ici, de rester éveillés, qui sont obligés de dire à haute voix, en anglais, « Stay awake », rester éveillé, ce qui fait littéralement penser au terme « woke », participe passé trafiqué de « wake », qui désigne la supposée idéologie, honnie par le conservatisme, et qui initialement est une invitation à rester éveillé, face aux injustices et aux événements de la société et du monde, et qui est désormais le repoussoir, encore une fois, du milieu conservateur, mais aussi un des mots les plus fréquents dans nos journaux et chaînes de télévision d'extrême droite. Rester en alerte, Restez éveillés. Keep watching, stay awake, dit Jésus. Maintenant, le vif du sujet. Je fais un petit silence pour vous débarrasser de ce que je viens de dire au départ. Voilà. Le vif du sujet, maintenant. Ça fait quelques années que je prêche, évidemment, et à chaque fois qu'arrive ce type de texte, aux alentours de la période de l'Avent, à chaque fois je me dis qu'ils correspondent parfaitement à la période que nous vivons. Étonnant. Cela fait 37 fois que cela correspond parfaitement. Et cette fois, j'étais de nouveau enclin à me dire la même chose, et puis je me suis donc rappelé que c'est à chaque fois la même chose. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, oui, mais cette fois, il y a l'abondance des catastrophes liées au changement climatique. Mais cette fois, c'est plus tangible. Cette fois, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors je suis obligé de rappeler, par exemple, le tsunami en Asie du Sud-Est il y a 20 ans, qui a entraîné la mort de 200 000 personnes, et ce, le lendemain de Noël. Je dois aussi rappeler le séisme en Arménie en 1988, date le 7 décembre. Je ne vais évidemment pas revenir sur toutes les catastrophes dites naturelles ou dites humaines, mais vous ayant rappelé déjà ces deux-là, je sais que vous allez vous en rappeler d'autres, de plus ou moins grande ampleur, plus ou moins proche de nous dans l'espace ou dans le temps. Récemment, le Covid. 16 millions de morts dans le monde. Sont-ce des signes, des bouleversements qui disent que la fin des temps, elle est proche? Qui se rappelle avoir un jour rencontré la mention d'une année sans été? Une année sans été. C'était l'année 1815, l'année de l'éruption du mont Tambora en Indonésie, 71 000 victimes, la plus grande explosion volcanique de l'histoire, ayant entraîné une série de catastrophes liées. Là, les signes dans le ciel étaient évidents. Il n'y avait presque plus de soleil. Était-ce encore là un signe de la fin des temps? Oui? Non? Alors, disons-le, c'est non. Ni avant-hier, ni hier, ni aujourd'hui. Malgré aujourd'hui l'abondance des guerres que j'appelle révélées, car en général, les guerres auxquelles nous étions habitués restaient dans cette formule démente, des guerres de basse intensité. Malgré la proximité de nous, de ces conflits, malgré leur caractère insupportable et malgré les autrement insupportables passivités et compromissions, réseaux d'intérêts de ceux et de celles qui pourraient sans doute faire quelque chose, malgré la désormais certitude que oui, l'activité humaine provoque une intensité des catastrophes dites naturelles, malgré tout ça, et malgré notre propre et sans vergogne contribution au chaos géologique, non en fait, il n'y a quand même rien de vraiment nouveau sous le soleil. Le jour où il y aura vraiment du nouveau sous le soleil, en fait, c'est dans un milliard d'années, quand l'évolution de cette étoile, bien avant son extinction, rendra toute vie impossible sur notre planète. D'une certaine manière, on pourrait déjà le dire, c'est plié. Au plus tard, dans un milliard d'années. De quoi les discours rapportés de Jésus sur la fin des temps sont-ils finalement le nom? Eh bien, ce nom, c'est l'héroïsme. Et l'héroïsme de la personne éveillée. Mais c'est aussi plein d'autres noms, comme sa bravoure, son panache. Plus personne n'emploie ce mot. Tout ce qui caractérise sa réaction complètement antagoniste avec la réalité effective. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête. Une espèce de folie dont Paul, l'écrivain, philosophe, théologien Paul, en fera un concept positif. La folie de la croix, une croix plantée dans le sol comme une borne qui désigne le néant et dont les premiers croyants au Christ feront le point de départ du plus grand mouvement d'espérance religieuse de l'histoire humaine. Une folie, tout s'effondre. Relevez-vous, dit Jésus, et restez éveillés. À quoi cela peut-il bien servir ? À rien. Sinon, d'éviter de faire corps avec les éléments qui tombent, avec les virus qui se déploient, avec les despotes qui n'ont plus de limites, à rien. Sinon, d'éviter de se sentir passivement complice avec les saccageurs à court terme de l'humanité et de la planète. Cela ne sert à rien, cet évangile, sinon à définir l'attitude même du croyant au Christ. Celui-ci ne sera donc pas cet être douloureux, passif, faible, souffrant, tel que décrit par toute une tradition, ce sera un corps debout et éveillé. Ce sera un paradoxe vivant. Ce sera un culot invraisemblable. Et en somme, ce sera une espérance faite chair. Ce croyant au Christ sera un témoin contre l'inexorable. Un mot intéressant d'ailleurs, inexorable, qui signifie étymologiquement qu'il ne peut être fléchi par la prière. Le chrétien, si tant est qu'il retrouve le nerf de sa propre créativité religieuse, a inventé, sans la nommer, la notion d'exorable. En d'autres termes, le chrétien, au milieu de tous ces signes, qui en sont ou qui n'en sont pas, ce n'est pas le problème, depuis le temps, le chrétien se fait lui-même réalisation de sa propre prière. Non pas parce qu'il le peut, le veut, le croit ou le doit, mais simplement parce que c'est ça ou c'est rien. Ce n'est pas un choix éthique, moral ou que sais-je. J'appellerais plutôt cela un réflexe. Un réflexe peut-être bien enfoui, mais qu'il faut redévelopper. Le vieux réflexe, en fait, sans doute archaïque, de la vigilance pour la survie. Vous savez, on évoque souvent l'expression « le début de la fin ». Et dans cet évangile du jour, nous y sommes. Mais aussi, particulièrement ces temps-ci, quand, même dans les milieux politiques chrétiens, et je pense précisément à ce qu'on appelle le christianisme social, on va jusqu'à transformer la question qui nous est connue, la question « que faire ?» pour matérialiser l'espérance qui nous anime, en une autre question, possiblement plus adaptée au temps que nous vivons, en cette autre question, quelle espérance en situation de catastrophe assurée ? Et je l'ai littéralement entendu. Alors, parlez-en aux premiers croyants en Christ, qui ont vu de leurs yeux leur maître être assassiné sur une croix. Parlez avec eux. Comment parler avec eux ? Eh bien, oui, c'est possible, car finalement, ce sont des très proches qui s'expriment dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'un texte ? C'est un appel au dialogue. C'est le début de la fin. Peut-être, sans doute. Mais en tous les cas, c'est forcément et toujours le début de la fin. Pour dire quelque chose de très trivial, pour faire un peu baisser la tension, je suis personnellement très rassuré. Une heure environ avant une réunion nocturne à laquelle ma vraie nature corporelle s'oppose, parce que je sais que plus j'approche du début de cette réunion, plus aussi j'en entrevois la fin. Mais de façon un peu moins triviale, Dès notre conception, c'est le début de la fin. La fin de notre vie. La fin de notre expression singulière de la vie. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et puis peut-être, dans le nouveau soir qui vient, nous ne serons plus là. Jésus leur dit, tout cela passera. Jésus dit des évidences et on ne les entend jamais. D'où la nécessité de les répéter. Tout cela passera. Sous-entendu, ne vous fiez pas à ceux qui invoquent sans cesse l'éternité, l'éternité de leur pouvoir, de leur soleil invincible, de leur civilisation, de leur concept. Tout ce que je vous demande, dit Jésus, c'est de vous redresser et de relever la tête, et ce, même si physiquement, il vous est impossible de le faire. Je repense à cet emblématique vieillard du village de Sauve dans le Gard. Des années auparavant, tout le village, qui était entièrement protestant, a basculé de force dans le catholicisme, à coups de dragonnades, d'exécutions et de galères. Alors, à ce vieillard, un jour finalement rompu par la maladie et à bout de souffle, donc au début de sa fin, à ce vieillard est annoncée la venue du prêtre, qui lui apporte, gentiment d'ailleurs, le sacrement qui était encore appelé à l'époque celui de l'extrême-onction. Quand le prêtre arrive, notre vieillard l'envoie balader. En protestant de sa foi réelle et de sa vigueur protestante retrouvée, puisqu'il n'a plus rien à perdre. Pour ce genre de forte tête, la condamnation post-mortem était claire, être accroché à un cheval et se faire démembrer sur les chemins pierreux. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête. Pour éviter ces désagréments affreux, les familles, qui sans doute avaient elles aussi entendu cet évangile, redressez-vous, levez la tête, restez éveillés, et qui savaient ô combien forte était la tête de leur vieux alité, restez d'abord discrètes sur l'avancement de la maladie, puis, après que celui-ci avait rejoint son Dieu, se démenaient promptement pour l'enterrer, si l'on peut dire, dans les murs très épais de leur maison. À tel point qu'il existe encore à Sauve, dans le Gard, un service municipal pour dénicher ses ancêtres récalcitrants de leurs murs et pour ensuite, enfin, qu'ils soient dignement enterrés. Redressez-vous et levez la tête, restez éveillés. De toute façon, il n'y a strictement aucune autre attitude heureuse. Amen. La confession de foi que nous sommes appelés à dire ensemble est la même, et c'est volontaire, que celle de dimanche dernier, puisqu'elle est courte et elle me semblait pouvoir correspondre, on va dire, à la mentalité de ce culte avec son texte. Je vous invite à vous relever pour que nous puissions la dire ensemble. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Et amen. Et nous continuons avec ce 31-18, qui est le numéro du chant, page 327, strophe numéro 1 à 5.
Thank you.
Ce culte un peu particulier est en train de se terminer, et évidemment, et bien sûr, et heureusement, il se termine par la prière d'intercession. Seigneur, nous voici devant toi, non pour énumérer des problèmes que tu connais déjà, mais pour parler à haute voix ce qui brûle dans nos cœurs. Nous portons avec nous des noms, des lieux, des visages. Donne à nos prières la force d'agir.
Seigneur, nous pensons à ceux qui vivent au milieu des conflits, aux femmes et aux hommes pris au piège de décisions qui ne leur appartiennent pas. Nous nommons les terres meurtries par la guerre, les noms oubliés dans les décombres des journaux, Ukraine, Soudan, Gaza, Congo. Fais trembler les certitudes des oppresseurs, renverse les logiques de haine et de domination.
Nous pensons à ceux dont la fin n'est pas une image, mais une douleur quotidienne. Aux enfants, dont les corps portent les stigmates de l'abandon. Donne-nous, Seigneur, le courage d'affronter notre indifférence. Fais lever des cœurs généreux, des solutions justes, des gestes immédiats.
Seigneur, nous pensons aux personnes qui peinent sous le poids de l'injustice, aux prisonniers et prisonnières de conscience, aux victimes de discrimination, à celles et ceux qui souffrent en silence dans les couloirs de nos sociétés. Suscite des voix prophétiques, des mains fermes pour renverser les lois iniques, et aussi une Église qui ose défendre l'écrasé.
Nous pensons aussi à notre terre, malmenée par nos excès, les forêts qui brûlent et puis qui s'éteignent, les eaux polluées, les vies brisées par les dérèglements climatiques. Aide-nous à entendre les appels à changer et fais de nous des gardiens responsables et pas des spectateurs passifs ou apeurés.
Seigneur, viens fortifier les personnes qui tiennent debout malgré tout, les soignantes et soignants épuisés, les juges débordés, les enseignants et les enseignantes qui persistent et aussi qui abandonnent, les bénévoles sans moyens et toutes ces personnes qui, dans l'ombre, choisissent de ne pas baisser les bras. Donne-leur des compagnons de route.
Nous te remettons, Seigneur, aussi nos propres contradictions. Aide-nous à prier non seulement avec des mots, mais aussi avec nos mains, nos choix, nos vies, que chaque prière puisse devenir une action, chaque murmure, un cri pour la dignité, pour la vie. Ensemble, nous disons cette prière que Jésus accomplit à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous relever pour l'exhortation et la bénédiction. Quand vous sortez d'ici, souvenez-vous, le monde a besoin de ce que vous êtes. Soyez attentifs aux détails. Ne soyez pas esclaves de vos idées. Oui, on le dit, et c'est vrai, une simple parole d'encouragement, un geste simple aussi, ça peut suffire. Vous n'avez pas à tout résoudre, mais vous pouvez être appelé là où vous êtes, la personne qu'il faut. Marchez avec courage. Que la paix de Dieu garde vos cœurs dans la confiance. Allez et devenez et soyez des témoins de l'espérance dans un monde qui en a tant besoin. Allez et que rien, sinon le Seigneur ou votre conscience, ne vous retienne. Votre joie sera celle de Dieu. Et amen. Nous pouvons écouter le dernier morceau musical.